Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jocelyne Moussaou Pondé.
Les enseignants du lycée Motema Mpiko sont en grève depuis 3 jours. À l'origine, la polémique créée autour de la gratuité de l'enseignement de base. Les détails dans ce journal. Montée des eaux dans la Mongala, les ménages des quartiers marécageux commencent à manquer de nourriture et la Croix-Rouge dit craindre la recrudescence du choléra. Le nombre d'utilisatrices des méthodes modernes de contraception en RDC a doublé en 7 ans. Qu'est-ce qui explique ce progrès? Notre invité, Albert Petit, vice-ministre de la Santé, nous le dira. Bonsoir à tous. Parlons d'abord de la visite de travail du chef de l'État en Allemagne. Il y est depuis ce matin. Félix Tshisekedi a commencé son programme de 2 jours par un entretien avec le président du Parlement allemand, puis une séance de travail avec les parlementaires du groupe Afrique. Notre seul souci aujourd'hui n'est que de développer le pays en évitant nos démons d'antan, corruption, dictature, a déclaré le président Tshisekedi aux parlementaires allemands à Berlin. Il a également appelé les investisseurs à venir en RDC. Je le disais tantôt, arrêt des cours au lycée Motema Mpiko ici à Kinshasa. Les enseignants sont en grève depuis maintenant 3 jours. Ils veulent voir clair quant à la controverse engendrée dans la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement des bases. En effet, les enseignants de cet établissement ne comprennent pas que certaines autorités de l'EPST affirment que cette gratuité concerne également les classes montantes des humanités secondaires. Les détails avec Jacques-Yves Molima.
Les autorités hiérarchiques ne font que défiler dans notre école pour obliger mademoiselle à rétrocéder tout ce qu'elle avait perçu comme frais de fonctionnement. Comme si cela ne suffisait pas, mademoiselle était interpellée à 2 reprises, à la brigade criminelle, au parquet, à la Gombe.
Voilà ce qui est à la base de cet arrêt des cours, explique le délégué du personnel du lycée Motema Mpiko, Désiré Milongo. Pourtant, ici, il n'y a que les classes de 7e et 8e qui sont concernées par la gratuité. Mais comment expliquer tous ces défilés au lycée Motema Mpiko?
Il est déplorable de constater que cette gratuité-là, je ne sais pas, maintenant on nous dira que c'est jusqu'à l'université. D'où est venue cette mesure? S'il vous plaît, je suis désolé qu'on cesse de politiser l'enseignement.
C'est ce qui a d'ailleurs conduit les élèves de cette école de descendre au Parlement ce jeudi dans l'avant-midi. Là, elles ont remis leur mémo à la députée nationale Christelle Vuanga. Que dit ce mémo? Élève Tchoudi de la 4e pédagogie.
Notre MMO parle du fait qu'on puisse nous certifier si la gratuité est réellement au niveau humanité. Et on parle également du fait qu'on puisse très bien rémunérer nos enseignants. Nous trouvons qu'ils ont raison d'y réclamer ce droit.
Cet arrêt des cours est à délai indéterminé. Pendant 7 ans, silence radio du côté des autorités de l'EPST.
La ville de Bumba, dans la Mongala, fait face actuellement à des graves inondations suite à la crue du fleuve Congo. Des quartiers entiers sont désertés, les vivres se font de plus en plus rares au marché, les prix sont en hausse. Une catastrophe qui affecte des milliers de ménages dans les quartiers marécageux. Cependant, les sinistrés déplorent l'indifférence des autorités compétentes et l'absence jusque-là d'appui humanitaire. Paul-Richard Malengela nous fait le point de la situation.
D'après des habitants joints au téléphone, dans certains quartiers de Bumba, ils se croient dans la ville italienne de Venise. Certains quartiers sont inondés, notamment Lokele Moloa, Bopoto, Mobutu, Sedek et autres. Des centaines d'habitations sont abandonnées, d'autres totalement écroulées, affirme-t-il. Dans ces quartiers, des puits d'eau sont souillés, tandis que les latrines offrent un spectacle dégoûtant avec leurs excréments sur les eaux stagnantes du fleuve. Un secouriste de la Croix-Rouge dit craindre bientôt la recrudescence du choléra, puisque les riverains qui ne savent où aller s'en servent pour la boisson. Ailleurs, toujours dans la ville, ce sont des points de passage qui sont bondés d'eau du fleuve Congo qui a quitté son lit. Même le pont Moloa sur la nationale numéro 6 qui relie Bumba à Lissala est sous eau, indique-t-on. Là, tout mouvement se fait par pirogue pour passer d'un coin à l'autre, soit aller chercher des vivres. Des vivres qui connaissent déjà une pénurie inquiétante, notamment la chikwang, les cossettes de manioc, le poisson et le bois de chauffe, a expliqué une ménagère. Les habitants de Bumba se disent abandonnés et dénoncent l'indifférence des autorités tant locales, provinciales que nationales. Car depuis la survenue de cette catastrophe naturelle il y a un mois, aucun camp d'hébergement des déplacés n'a été érigé. Aucun n'a pu non plus en vivre, médicaments ou vêtements jusque-là, soulignent nos sources. Mbandaka pour Chamanenge, la radio Okapi.
Pour sa part, le gouvernement annonce pour très bientôt son aide en faveur des sinistrés des inondations dans l'ex-Équateur. Le ministre de la Solidarité nationale et Action humanitaire dit avoir transmis à son collègue du budget la liste des dépenses en termes d'argent que cette opération pourrait coûter. Selon Steve Mbikai, c'est à l'issue d'une réunion avec son collègue du budget et le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, que sera connue la date exacte du départ de la délégation gouvernementale dans cette partie du pays. Le ministre Steve Mbikai est joint par Maria Mundunga.
Mon ministère avait transmis un budget à ce sujet au ministère du budget. Cet après-midi, j'ai réunion avec le vice-premier ministre chargé du budget pour arrêter le montant possible pour l'intervention. J'ai réunion avec OCHA pour qu'on puisse coordonner ensemble comment intervenir pour éviter qu'on puisse y aller en ordre dispersé. Je pense qu'après ces deux réunions OCHA et puis avec le ministère du budget, je pourrai alors dire quel jour on peut se déplacer pour Sud-Ubangi, donc au Bangui, éventuellement aussi la Mongala et le.
Cette assistance à la population va consister à faire quoi exactement?
Dans pareil cas, nous cherchons d'abord les abris pour les ménages qui sont à la Belle Étoile. Il faut des bâches, il faut leur amener des vivres et non-vivres parce que beaucoup ont tout perdu. On peut penser aussi à donner aux enfants le kit scolaire, puis quelques médicaments. Et tout va dépendre de la situation qu'on va trouver sur le terrain. Mais cela, au moins, les choses les plus urgentes qu'il faut donner aux gens qui sont dans pareille situation, ça va se faire sûrement le plus tôt possible.
Ici à Kinshasa, c'est enfin effectif. Les travaux de réhabilitation et construction de l'avenue Elengessa ont démarré. Exécutés par l'entreprise Adi Construction, les travaux vont s'articuler en deux phases. La première consiste en la réhabilitation de la première partie de l'avenue qui part du marché Mariano au pont situé aux abords de l'avenue Ngiringiri. Et la seconde va concerner la construction d'une nouvelle route qui partira du pont jusqu'au niveau de l'arrêt armé sur la route bypass à Mongafula. Notre reporter Jacques-Yves Molima a visité le chantier. Voici son reportage.
Cette route depuis 52 ans, 32 ans de Mobutu et 22 ans de Kabila. Personne ne s'est soucié de nous.
Eh bien oui, le désengorgement de la zone englobant les communes de Makala, Bumbu, Selembao jusqu'à Mongafula ne pouvait que passer par l'avenue Elengessa. Longue de 6 km, l'avenue Elengessa tire son importance en permettant aux usagers à partir de l'avenue Kasavubu d'atteindre la maison communale de Mongafula sur bypass sans passer par université avec son célèbre rond-point Gaba. Pour les habitants du coin, c'est un motif de satisfaction.
Nous sommes dans la joie parce qu'enfin, ils ont songé à nous afin que Makala ait une artère asphaltée. Elle va jusqu'à bypass pour nous éviter les détours.
Divisée en deux, la première partie, comme le dit le chef de chantier, l'ingénieur Fiston Moukel, c'est la réhabilitation.
La réhabilitation consiste d'abord, il y a des sections ciblées que vous verrez que là, nous sommes en train d'excaver. Enlever ce qui existait et nous remplaçons maintenant les nouveaux matériaux.
Un travail qui se fera en deux mois. La seconde et la grande partie concernera toute la zone longtemps enclavée jusqu'à bypass. Là, les travaux de construction prendront 14 mois.
Rendons-nous au Nord Kivu. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC visite la chefferie de Bwito aujourd'hui. Bwito, c'est dans les territoires de Rutshuru, une centaine de kilomètres au nord-ouest de Goma. Dans son agenda, Leila Zerougui devrait s'entretenir avec les autorités coutumières locales à Nyanzale et à Kikuku. Reçue tard dans la soirée par le gouverneur du Nord Kivu hier mercredi à Goma, la chef de la MONUSCO a précisé que son séjour dans la zone a pour objectif de coordonner les actions avec les autorités provinciales et la société civile. C'est là dans le but de renforcer la stabilisation et réduire les menaces des groupes armés sur la population. Leila Zerougui l'a dit à la presse du gouvernorat du Nord Kivu.
Cette visite que j'effectue cette fois, elle est consacrée spécialement pour le Petit Nord. Je veux vraiment voir qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, comment on peut travailler avec les autorités, comment on peut renforcer la protection. En ayant un peu plus de compréhension sur qu'est-ce qui se passe dans chaque zone, le Masisi, Walikale, Rutshuru, Kichanga, toutes ces zones où il y a beaucoup de tensions, il y a aussi des groupes armés, il y a aussi des populations qui subissent ces violations, il y a des populations qui se déplacent, il y a des viols, il y a beaucoup de choses. Et donc, je voudrais voir comment on peut agir de façon d'abord coordonnée, mais aussi bien réfléchie pour réduire les souffrances des populations et renforcer l'autorité de l'État.
Leïla Zerougui est accompagnée dans cette tournée par le représentant spécial adjoint chargé des opérations, François Grignon, et d'autres cadres civils et militaires de la mission. Les présidents fédéraux des partis membres du Front commun pour le Congo ont été sensibilisés hier mercredi au civisme politique et à la paix. Ceci fait suite à la rencontre initiée mardi dernier par le gouverneur de la province du Haut-Katanga et qui avait réuni les membres du Front commun pour le Congo et ceux de Cap pour les changements. L'objectif est d'éviter que les incidents du genre de ceux survenus à Kolwezi le week-end dernier où les effigies de Joseph Kabila et du président Félix Tshisekedi étaient incendiées ne se reproduisent au Katanga. Jean Ngandou.
D'après un membre du FCC contacté, le rendez-vous avec les présidents fédéraux de leur regroupement politique a eu lieu au complexe scolaire Kiwele. Il était question de les sensibiliser pour qu'ils aillent à leur tour parler à leur base de cultiver la paix et le civisme politique, car le gouverneur de province ne voudrait pas que ce qui s'est passé à Kolwezi le week-end dernier ne se reproduise dans le Haut-Katanga. Pour le gouverneur Jacques Kiabula, il faut privilégier la paix et la sécurité, gage de tout développement. Ceux de l'UDPS, qui avaient aussi pris part à la réunion initiée par le gouverneur de province, promettent également d'en faire autant dans les prochains jours. Par ailleurs, au cours du Conseil provincial de sécurité tenu ce mercredi à Lubumbashi, il a été demandé aux politiciens, sans les citer, qui instrumentalisent les jeunes et qui tirent les ficelles dans l'ombre, de cesser tout acte tendant à créer les troubles dans la province. À cette occasion, un appel a été aussi lancé aux responsables de partis politiques, tant de la majorité que de l'opposition, de prêcher la cohabitation pacifique. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité internationale.
La plus grande partie de Malabo, la capitale équato-guinéenne, était paralysée ce jeudi par une pénurie d'essence qui dure depuis le début de la semaine et a vidé les rues de la ville. Le petit pays d'Afrique centrale, pourtant riche en hydrocarbures, souffre d'une pénurie car des navires transporteurs de carburant sont bloqués en mer par le mauvais temps.
L'invité.
En RDC, plus de 2 millions de femmes et des filles utilisent des méthodes modernes de contraception, soit presque le double du nombre d'utilisatrices enregistrées en 2012. C'est le résultat du rapport Family Planning 2020, publié récemment à Nairobi, en marge de la conférence internationale sur la population et les développements. Qu'est-ce qui explique ce progrès enregistré en RDC? Réponse dans cet entretien de Jody Daniel Kachama avec Albert Mpeti, vice-ministre de la Santé de la République démocratique du Congo.
Monsieur Albert Petit, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le vice-ministre de la Santé de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, en RDC, plus de 2 millions de femmes et jeunes filles ont accès aux méthodes contraceptives modernes. Qu'est-ce qui explique les progrès réalisés par la RDC dans le domaine de la planification familiale?
Alors, vous savez que la RDC, notamment le ministère de la Santé publique, a consenti d'énormes efforts. D'abord, la République elle-même, et à travers nos partenaires, nous avons investi dans la femme, nous avons investi dans les enfants, les jeunes filles notamment, pour leur expliquer ce qu'était la prise en charge en elle-même pour la santé. Et c'est important. Vous savez, il y a des choses qui paraissent évidentes en ville, mais à l'intérieur du pays, ça pose encore des problèmes parce qu'il faut expliquer pour la santé de la jeune fille, les problèmes de menstruation, tout ça. Et le ministère de la Santé, la nouvelle équipe, avec son Excellence Monsieur le Ministre Eteni, dont je représente ici d'ailleurs, nous avons une autre vision et nous voulons donner une autre dimension aussi à tout ce qui est préoccupation, la santé primaire, la santé publique, ça sont nos préoccupations. Et je crois qu'avec cette vision-là, nous allons atteindre les objectifs que se fixent aujourd'hui toutes les organisations connexes aux Nations Unies.
Et quelles sont les stratégies concrètes qui ont été mises en place pour permettre aux femmes et aux jeunes filles d'accéder aux méthodes modernes de contraception? Mais
écoutez, il y a tout un dispositif de programmes qui sont là. Et à travers nos programmes, justement, du ministère de la Santé, eh bien, toutes ces directions-là accompagnent les jeunes filles à travers ces programmes.
Alors, on nous a annoncé qu'à Kinshasa, au mois de décembre, il se tiendra une conférence sur la planification familiale. Qu'est-ce que vous attendez à l'issue de cette rencontre?
Nous allons continuer à amplifier, continuer à faire la divulgation, informer et toujours informer. Et je crois que quand on communique et quand on informe, on évite des catastrophes du point de vue santé.
On annonce qu'aujourd'hui, la Norvège va donner des financements additionnels pour soutenir la planification familiale. Votre réaction par rapport à cela?
Vous savez, c'est vrai qu'il y a toutes ces annonces. Il y a aussi beaucoup d'effets d'annonce. Vous savez, aujourd'hui, la Norvège et d'autres organisations par rapport au Brésil, on est à 2 milliards de dollars. Et pour la RDC, c'est 200 millions de dollars à peu près. Alors que nous sommes les deux poumons du monde. Vous voyez, il y a aussi beaucoup de choses. Peut-être que nous aussi, les Congolais, la RDC, devons faire beaucoup de lobbying. On a appris, par exemple, que les Brésiliens, lorsqu'il y a ce genre de sommet ici, ils viennent à 160. Et nous, on est à peine une dizaine. Vous voyez, il y a un grand travail de lobbying. Sur les 160 Brésiliens qui arrivent ici, il y a 40 officiels et les autres sont des organisations qui les accompagnent, les ONG, les associations différentes, pour justement obtenir les 2 milliards. Les 2 milliards ne viennent pas comme ça. Donc nous devons tirer les leçons de tout ça pour les prochains sommets, que nous puissions aussi être nombreux et organiser les travaux de lobbying, qui doit d'ailleurs commencer avant les sommets. Parce que quand vous êtes absent, bien, personne ne pense à vous.
Et qu'est-ce qu'il faut faire au niveau interne pour augmenter le financement domestique par rapport à la planification familiale?
Il y a un problème budgétaire. Nous allons voir maintenant, avec cette session parlementaire, qui est essentiellement budgétaire, combien on va disponibiliser pour le ministère de la Santé pour que ça puisse entrer dans le cadre de programmes. Et les programmes ne vont pas toujours attendre les partenaires. Nous devons être en mesure aussi nous-mêmes par les moyens dont dispose la République. Et Dieu sait s'il y a des moyens. Si on évite le coulage, eh bien nous pouvons vraiment aller de l'avant et couvrir beaucoup de besoins par nous-mêmes et non pas attendre toujours des programmes extérieurs.
Monsieur le vice-ministre, quelles sont vos attentes en participant à cette conférence?
Bien écoutez, quand on fait un déplacement pour ce genre de sommet, il y a d'abord la présence. Il faut marquer sa présence. Il faut marquer ce que nous voulons. Il faut dire aux partenaires, lorsqu'on vous donne la parole, et bien ce que veut la République démocratique du Congo.
Qu'est-ce que la RDC veut?
La RDC veut ceci. Par exemple, nous devons prendre des engagements. On a pris des engagements vis-à-vis de la femme, vis-à-vis de la jeune fille, et tout ça sont des engagements qu'on prend. La communauté internationale, à travers ce sommet, prend acte de ce que veut la République démocratique du Congo.
Monsieur Albert Petit, vice-ministre de la Santé de la RDC, merci.
Je vous remercie.
C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.